et fumer du cannabis.
Tout avait commencé dans le calme.
Soupçonné d'avoir reçu des pots de vin, toujours au Proche-Orient.
Pas de moyen pour répliquer.
Eux, ils ont gaz lacrymogène.
Eux, ils ont les matraques, ils ont tout. Nous, on a rien, on a que les mains, on a que des pierres.
Un fasciste, la gangrène, les lignes pour la
gangrène. L'esclavage n'a hélas pas totalement disparu, y compris en France.
Uniquement le pognon, est-ce que vous êtes content avec ça ?
Une question se pose. Les expériences aériennes françaises sont-elles dangereuses ?
Est-il vrai que le 26 juillet 2006, une catastrophe nucléaire a été évitée de justesse en Suède ? Oui, c'est parfaitement vrai.
Mais dans le bateau, là où nous sommes embarqués, il n'y aura pas de canot de sauvetage.
L'incompatibilité entre l'existence du capitalisme, la nature du capitalisme, forcément, et la gestion des problèmes écologiques.
Oh là là, il y en a des choses affichées à la poubelle.
Bonsoir à tous et à toutes. Vous êtes à l'écoute de ce Canu Info du jeudi 6 octobre 2022. Je vous le dis tout de suite, après nous, vous retrouverez à partir de 20h l'équipe de la Petite Cuillère qui revient pour vous parler des prisonniers et des prisonnières. Contre les prisons, bien évidemment. Hein, c'est un petit peu engagé quand même. Vous êtes sur Radio Canu. Nous allons parler de quoi donc ce soir ? De plein de choses, hein, n'est-ce pas Laurent ? Vas-tu bien ?
Ouais, je vais bien.
Tu vas bien. Nous allons parler de la guerre, de l'armée et de la hiérarchie. Ce sera avec toi pour ouvrir cette émission. Nous partirons du côté de l'Espagne. Nous parlerons d'un sujet dont tu ne m'as pas parlé. Je ne sais pas ce que c'est. Tu m'as écrit gréviste égale terroriste. J'imagine que c'est du sarcasme.
Non, c'est la réalité.
Les grévistes, attends, c'est des terroristes.
Exactement. Exactement.
Ah, c'est des Khmers, quelque chose vert. Non, aussi peut-être.
Plus rouge, les syndicalistes. Ouais.
Nous reparlerons de Camailleux cette semaine, si vous le voulez bien. Nous parlerons aussi de Total. Nous parlerons sport.
Ouais, on est super fort en sport.
Ouais, vous allez voir. Et puis on va parler plein d'autres choses. Enfin, on verra parce qu'on a trop de sujets, donc on sait déjà que nous ne pourrons pas les faire, puisque, comme je vous le disais, vous aurez la chance de pouvoir écouter La Petite Cuillère à partir de 20h. Alors, c'est à toi, s'il
oui,
te plaît.
Oui, et je vais ouvrir sur la guerre, l'armée, tout ça, parce que c'est à la pointe de l'actualité en ce moment. C'est notamment porté par Sébastien Lecornu, qui est engagé, hein, puisqu'il est ministre des armées, hein, ministre de la guerre, quoi. Donc il a officiellement, je cite, engagé une réflexion sur l'organisation et la refonte profonde des réserves militaires. Objectif, doubler le nombre de réservistes dans les armées françaises. Car oui, la guerre c'est bien, Lecornu veut y associer le maximum de la population et il trouve qu'il n'y a pas assez de monde. Il y a eu un gros communiqué peut-être aujourd'hui d'ailleurs, et dont le titre en gros c'est doubler le nombre de réservistes. Et donc, à la suite, hein, Sébastien Lecornu lance un groupe de travail pour susciter l'engagement. Et ça, si ça vous fait pas rêver, c'est que vous n'avez rien compris, quoi. Donc voilà, alors officiellement, on nous dit que ce groupe de travail sera composé de militaires, oui, c'est pas logique, hein, de parlementaires, d'organisations syndicales, patronales et d'associations. Alors, je suis bien curieux de voir les syndicats, les organisations syndicales qui vont aller travailler pour qu'on fasse la guerre. Bon, il y en a quelques-unes, hein, on ne sera pas surpris. Le patronat et la guerre, ça a toujours bien marché. Hein, le patronat s'est toujours beaucoup enrichi sur les guerres, hein, et sur donc les pauvres, hein, qui crevaient en premier, hein, bien évidemment. Donc ça, c'est pas nouveau. Et après, les associations, alors là, ils vont trouver quoi comme assos? Ils vont pas aller voir l'Union Pacifique, hein, forcément. Mais ils vont trouver des assos qui aiment la guerre, qui aiment l'armée, qui aiment la force virile, qui aiment la hiérarchie, qui aiment tous ces trucs-là, là, qui sont véhiculés par l'imagerie des armées, modernes ou pas, hein, parce que finalement, les armées modernes qui officiellement sont inclusives, on a la même idéologie derrière. Voilà. Donc, voilà, il va très loin. Il dit que c'est un droit pour le peuple français de contribuer à la défense nationale. Enfin bon, il y a toute une propagande, hein, sur de la part de Le Cornu pour essayer de booster voilà le nombre de réservistes qui est d'après lui pas assez gros. Tout le monde travaille pour faire la guerre en ce moment. Hein. Ils ont tous une belle excuse russe et ils s'en servent un maximum pour essayer de gonfler leur budget, leurs troupes, enfin toutes ces choses là. Parler aujourd'hui de pacifisme, c'est encore pire que il y a quelques années, vous êtes le méchant paria. D'ailleurs, l'économie de guerre va bien, la preuve, on a appris en même temps que 2 milliards vont être dépensés pour acheter des munitions, parce qu'il paraît qu'on n'a plus de munitions. Bon, je sais pas quoi, elle sert, la France n'est pas en guerre hein, quand même, elle a été virée d'Afrique, donc du coup, bon, mais bref, ils ont une belle excuse. Donc 2 milliards donc pour 2023 pour les forces armées, un tiers de plus hein, que l'année dernière. Donc l'idée c'est de tirer un tiers de plus de balles ou de bombes ou de machins là qui font du bruit et qui tuent et qui détruisent. Alors ils se servent, alors c'est encore Le Cornu mais c'est toute la bande, de l'excuse de la guerre en Ukraine. Eh ben oui, putain, à cause de Poutine, du méchant Poutine, on dira pas le contraire. Eh ben nous, on va renforcer notre armée. Alors c'est une course, hein, c'est une escalade. Hein. Donc ils sont dans ce discours d'escalade militariste. Ils en profitent parce qu'avant, ça se voyait quand ils disent avant de dépenser 2 milliards alors qu'il y a plein de soucis de partout. C'est bon, c'était compliqué à défendre. Là, grâce à leur nouvel ami Poutine, ils peuvent y aller plein but, puisque c'est quelque part un ami de ces militarophiles, je sais pas comment les appeler, de ces industriels de l'armement qui, grâce à lui, vont vendre plein de trucs. Alors, plein de trucs, hein, c'est 200 missiles anti-char MMP. MMP, ça veut dire missiles à moyenne portée. Hein. 100 missiles anti-aériens SAMPT. Alors, ça veut dire sol air moyenne portée de nouvelle génération. Moi, je découvre des acronymes. Hein. C'est super intéressant, les news sur l'armée. Enfin, voilà, plein de trucs pour les rafales. C'est des avions qui volent et qui tuent. Enfin, voilà, c'est incroyable d'annoncer comme ça à un moment où on a besoin d'argent pour plein d'autres choses. Ouais, mais on va remettre 2 milliards, là, dans l'armée. Voilà. Et, en parallèle de tout ça, le retour du fils de la vengeance du SNU. Le SNU, vous savez ce que c'est? C'est le service national universel. C'est le truc qui... Alors, vous savez, quand Chirac a supprimé le service militaire, c'est un mec de droite qui a supprimé le service militaire, je fais partie des pacifistes qui se sont réjouis hein, de ce truc-là, auquel j'avais échappé avec intelligence. Hein. Il a fallu que je l'ouvoie. Enfin, voilà, c'était compliqué quand on était... quand on voulait... échapper au service militaire sans être objecteur de conscience. Objecteur de conscience, ça doublait la durée. Bon, on s'investissait dans une asso, mais ça doublait la durée de travail obligatoire. Parce que ça revenait à ça, hein, quand même. Il faut le dire. Alors, ce SNU, il n'y a plus d'objection de conscience. Vous êtes obligé d'y aller. Enfin, vous serez peut-être un jour obligé d'y aller, vous, les jeunes, parce que nous, les vieux, on n'est plus dedans. Et donc, il y a toute une propagande autour. Et il y a un bel article du Canard Enchaîné qui casse un peu le système parce que c'est un peu n'importe quoi. Alors, notamment en termes de financement, puisque normalement, jusqu'à maintenant, c'était un peu l'éducation nationale, un peu l'armée qui finançait, et puis l'armée a dit, il faut arrêter, là, nous on n'a pas à payer ça. Et l'éducation nationale dit, ah ben non, on va pas payer non plus, parce que l'éducation nationale, déjà, elle paye les profs au rabais, donc payer des encadrants. Et l'armée, pour gérer avec des casernes, des machins, des trucs. Et voilà. Donc du coup, il se renvoie la balle, alors, ce qui nous fait beaucoup rire, parce que ça dessert finalement ce SNU, hein, qui est, on rappelle, alors l'armée dit c'est un service civil, donc c'est pas nous. Alors on est entre les deux en fait. On est dans un service nationaliste, hein, le but c'est de faire des levées au drapeau, c'est de faire toutes ces choses nationalistes. Et puis c'est aussi d'apprendre la hiérarchie, c'est-à-dire tu dois obéir à ton supérieur. Enfin, il y a toute une idéologie derrière l'armée. armée et derrière ce service national universel qui reprend ses valeurs de soumission, parce qu'on doit se soumettre à l'autorité, bien évidemment.
Il paraît que ça va calmer la racaille aussi, c'est ce que j'ai pu lire quelque part.
Voilà, mais c'est toujours
en toute délicatesse, bien évidemment.
L'histoire de calmer la racaille et de faire intervenir l'armée, alors que ça n'a jamais marché, on rappelle. Et donc voilà, alors, l'article est intéressant parce que pour l'instant, il n'y a que 50 000 volontaires. Ils sont même pas arrivés à avoir les 50 000 volontaires qu'ils avaient prévus cette année. Et l'idée de Macron, c'est de faire passer tout le monde, c'est-à-dire à peu près 800 000 pauvres jeunes chaque année. Et là, pour les 50 000, ça a été déjà la catastrophe. Ils payent à coups de lance-pierre et en retard les intervenants, puisqu'on va avoir des profs de sport qui vont intervenir, on va avoir des éducateurs, on va avoir, et puis après, un peu tous ceux qui peuvent venir pour encadrer. Et puis, voilà, de l'assistance médicale, tout ça. En termes d'émargement, ce qui s'est passé cet été est assez catastrophique. Il y a des témoignages sur des gens qui ont dormi, enfin des jeunes qui ont dormi dans des situations indignes, dirons-nous. Enfin voilà, c'est pour l'instant un échec. Et ça nous fait plaisir que ce soit un échec, hein, parce que c'est pas une bonne nouvelle d'embrigader. Puisque le but, c'est d'embrigader, hein, comme l'école sert aussi à embrigader. Hein. Je vous rappelle que le but de Jules Ferry, quand il a rendu l'école obligatoire, c'était qu'il n'y ait plus jamais de révolution, c'est-à-dire qu'il n'y ait plus jamais d'envie de révolte. Hein. Il fallait faire rentrer tout le monde dans le moule de la République. Là, le but, c'est de faire rentrer tout le monde dans le moule d'un système hiérarchique où on obéit au supérieur. C'est ça qui est derrière toute l'idéologie hein, du SNU, entre autres. Et puis, tout le côté nationaliste, voilà, il faut regarder le beau drapeau taché de sang qui se lève, tout ça, enfin le sang si vous le voyez, si vous connaissez ce qui se passe derrière, mais sinon non. Donc voilà, la guerre à la mode en ce moment. Il y a une mobilisation et je l'ai perdu parce que ma feuille elle s'est pas imprimée, je sais pas pourquoi. Il y a une mobilisation samedi prochain, je vous retrouve l'info, je vous la donne tout à l'heure. Justement sur le pacifisme, c'est sur rebellion.info si vous cherchez l'information, mais je la redonnerai en fin de Canu Info. Et j'en parle parce que j'ai vu un tag sur une des affiches en disant pute à Poutine, parce que quand vous appelez à la paix, vous êtes il y a la haine des travailleuses du sexe, hein, puisque une pute
et
des travailleurs du sexe, donc est une pute, c'est quelqu'un qui n'est pas respectable. Déjà, on voit le niveau intellectuel des gens qui ont écrit ça. Et en plus, on rappelle qu'on peut être pacifiste, c'est-à-dire vouloir construire une société sans armée, sans guerre, etc., tout en soutenant la rébellion, la résistance d'un pays à résister à l'invasion d'un régime totalitaire, hein, comme c'est le cas avec la Russie et vers Poutine. C'est deux trucs différents. Et justement, on peut faire les deux en même temps. C'est un peu acrobatique, mais c'est jouable aussi. Voilà. Et donc, on n'est pas, du coup, du côté de Poutine quand on est pacifiste.
Alors, on va parler d'une autre guerre passée. Celle-ci, c'est cette guerre civile en Espagne, qui continue encore à marquer l'Espagne. On en avait parlé il y a quelque temps déjà. Je vous rappelle que Pedro Sanchez, hein, Premier ministre socialiste, arrive au pouvoir en 2018, a décidé de lutter contre les traces de l'histoire qui sont encore présentes, liées au franquisme, c'est-à-dire à la dictature de Francisco Franco, et de cette guerre civile avec les fascistes. L'idée de ce gouvernement, c'est de petit à petit intervenir sur cette société. Alors en 2019, on avait eu le déplacement de la dépouille de Franco de son mausolée pour aller dans un autre cimetière plus petit. L'idée, c'était d'arrêter que ce mausolée fasse l'apologie du franquisme avec des gens qui venaient en hommage à Franco sur ce mausolée. Et puis là, le Sénat a voté une loi qu'avait déjà votée en première lecture la Chambre des députés mi-juillet dernier. Alors c'est une loi adopté difficilement, hein, il faut le dire quand même. 128 voix pour, 113 contre et 18 abstentions. Donc vous pouvez voir, c'est quand même pas simple hein, non plus ce vote. L'idée, c'est de Pedro Sanchez, c'est de mettre fin au silence des vaincus, c'est son expression, de cette guerre civile, et donc de pouvoir amener un certain nombre de processus face à cette histoire. Alors, le texte dit « L'histoire ne peut se construire sur la base de l'oubli et du silence des vaincus de cette guerre civile ». C'est le préambule hein, de cette loi. La loi, elle va permettre la recherche des victimes disparues de cette guerre civile et de la dictature. Et ça va devenir une responsabilité de l'État qui va financer les fouilles et les exhumations. Il y a une banque d'ADN qui va être créée pour retrouver les victimes, pour arriver à identifier ces victimes. Et puis, il y a une carte sur les fosses communes qui vont aussi être élaborées, parce qu'en fait, tout ce travail-là, il a été fait par la société civile, par des regroupements privés, par des associations. L'État ne s'est jamais investi sur cette question d'une manière importante, réelle, et d'une manière tout simplement étatique. Alors... là, il y a Pedro Sanchez, dans son discours, a rappelé en juillet qu'il y avait 114 000 disparus forcés en Espagne, qu'il y a toujours cette question des enfants volés aussi qui existe dans cette Espagne franquiste. Donc c'est toute cette question-là que la loi va pouvoir permettre de tenter de régler. Ça, on ne dit pas que ça va être d'un claquement de doigts que ça va se faire, mais c'est vrai que le fait que l'État soit obligé de s'engager, ça peut changer les choses, et ça peut en tout cas, grâce à l'argent en tout cas, qui va être mis dans ces mouvements à la fois de recherche des victimes, d'organisation, de permettre d'aller certainement plus loin et plus vite. Donc il y aura cette question sur les bébés volés qui va pouvoir être aussi pris en considération. Et puis... c'est vrai qu'il faut se souvenir qu'il y a une loi d'amnistie de 77. Vous savez, c'est une loi qui était basée sur le fait qu'il y ait une paix pour avancer, pour continuer à la société de se construire. Je vous rappelle, Franco, il est mort en 75. Donc cette loi qui arrive en 77 qui dit, oulala, une loi d'amnistie, on va pouvoir reconstruire l'Espagne. Cette loi d'amnistie, le problème, c'est qu'elle a empêché le travail de mémoire, le travail aussi d'attaque contre les salopards franquistes. Donc là, cette nouvelle loi du Parti Socialiste, elle amène quand même de la nouveauté en Espagne. Ce qui est très intéressant, c'est que la droite, elle a promis l'abrogation de cette loi si elle revient au pouvoir l'année prochaine, ce qu'elle espère.
C'est-à-dire que la droite est encore franquiste, du coup.
Oui. Bah.
C'est l'église espagnole.
Il faut savoir que Mariano Rajoy, qui était là avant Pedro Sanchez, de 2011 à 2018, lui, il était très fier de dire qu'il n'avait pas dépensé l'argent de l'État dans l'application d'une première loi de mémoire historique qui avait été adoptée en 2007 sous un gouvernement déjà socialiste, parce qu'à gauche, on veut se saisir de cette question du franquisme, on veut regarder aussi en face la question de la dictature, et surtout on veut empêcher que l'extrême droite puisse aussi pointer son nez à travers cette mémoire du franquisme. Donc voilà, la droite, elle, non, elle n'a pas changé très clairement. Alors, comme je suis dans l'international, je vais me permettre de continuer si tu veux bien. Donc, on va parler sport. On va parler alors d'abord d'une chouette petite idée, parce que bon, là, il y en a le Qatar, donc avec la Coupe du Monde. Mais donc, l'Arabie Saoudite va organiser les Jeux Asiatiques d'hiver en 2029. Vous allez me dire comment ça?
Ouais, je crois que tout le monde croyait que c'était un truc du Gourafi ou un truc parodique. Ben parce que dans un désert comme ça, où il n'y a pas de neige, comment organiser les Jeux Olympiques d'hiver?
C'est pas tout à fait vrai qu'il n'y ait pas de neige.
Oui, il n'y a pas beaucoup.
Si, parce qu'il y a un endroit où il va faire froid, il va y avoir de la neige. Le problème, c'est les précipitations.
Oui, c'est ça, parce qu'il ne manque pas de froid, forcément, en hauteur, etc. Mais il manque de neige.
Donc c'est un secteur montagneux, ça va se situer à Neom. C'est ce grand centre Neom qui va être construit. C'est une espèce de mégapole complètement futuriste qui est aujourd'hui portée par le prince Mohamed Ben Salman, prince héritier, bien évidemment, qui est complètement investi dans cette création. C'est une création complète, donc dans ce désert où il va faire froid. Le problème, c'est que pour avoir de la neige, je vous rappelle, faut que ça pleuve. Alors évidemment, ça pleut et ça se transforme. On va pas vous refaire vos cours de collège, parce que je crois que c'était au collège, peut-être au CM2 qu'on apprend ça, avec les petits dessins et les petits schémas de comment ça va, tout ça, et que ça redescend après avec la neige. Bon, on peut se dire que déjà, ces Jeux asiatiques d'hiver pourraient être un peu artificiels en termes de neige. Et puis surtout, c'est une construction complète qui va coûter...
Parce qu'il n'y a pas de station de ski, tu veux dire?
Il n'y a rien. Ça va coûter des centaines de milliards de dollars. C'est pour ça qu'on a vu apparaître des dessins caricaturistes disant qu'ils allaient déplacer des montagnes, peut-être pour les trimballer d'un endroit à un autre. C'est donc un espace qui est au bord de la mer Rouge, pour vous situer un petit peu au niveau géographique où ça va se trouver. Alors oui, il peut faire froid, et puis c'est un endroit où il fait froid même l'été, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Déjà, il va faire froid. On va pouvoir y aller avec un bonnet et des gants. L'idée, c'est donc de créer des pistes de ski ouvertes toute l'année, un lac artificiel d'eau douce, des chalets, des manoirs et des hôtels de luxe. Ça, c'est ce qu'on nous raconte, puisqu'il y a déjà un site internet qui nous explique tout ça. Alors, ce qui est bien, c'est que ça a été voté à l'unanimité lors d'une assemblée générale à Phnom Penh, par donc l'organisation qui organise ces Jeux Asiatiques d'hiver. Bon, on peut supputer que pour l'Arabie Saoudite, c'est un peu comme le Qatar, ça permet de parler d'autre chose que des droits humains. Quelques soucis dans le pays. Au niveau du royaume, c'est quand même pas ça, on le sait. Donc du coup, agiter autre chose, agiter le sport, c'est quand même vachement pratique pour Mohamed Ben Salman, qui peut faire parler d'autre chose. Lui, donc, il est président du conseil d'administration de ce projet NEOM, et il veut, en fait, attention, c'est très important, redéfinir le tourisme de montagne dans le monde, grâce à sa nouvelle station. Et il veut respecter les principes de l'écotourisme.
Oui, alors le côté écolo, là, ça va être compliqué.
Mais quand même, ce qui est intéressant, c'est redéfinir le tourisme de montagne dans le monde. Alors, adieu les Alpes, je vous le dis tout de suite. Là, il y a un petit peu d'autres idées. Bon, on va voir, mais ce qui est toujours... Évidemment, on peut parler des problématiques écologiques, mais là, il faut surtout parler des problématiques des droits humains. Je veux dire, on va encore une fois aller regarder des sportifs. Même si, évidemment, a priori, ici, en France et à Lyon, on n'en a rien à taper des Jeux Asiatiques d'hiver en 2029. Sauf que ce qui est en train de se définir aujourd'hui, c'est que l'Arabie Saoudite accueille d'autres événements sportifs à l'avenir. Et on a entendu du côté de l'Égypte parler d'un travail de partenariat avec l'Arabie Saoudite pour faire une Coupe du Monde de football en 2030. Partagé. Donc, peut-être qu'il va y avoir plus que des pays autoritaires, mal adaptés en termes d'environnement, qui demain vont peut-être accueillir et les Jeux Olympiques et les Coupes du Monde, allez savoir. Bon, en 2024, malheureusement, c'est chez nous. On a quand même encore un peu du temps pour continuer à s'énerver, même si j'ai bien peur qu'on ne puisse pas y faire grand-chose malgré tout.
Bah, on peut essayer de ne pas enrichir l'Arabie Saoudite. On rappelle que la seule source de revenus de l'Arabie Saoudite, c'est le pétrole. Donc voilà.
Et du coup, ils essayent de se diversifier avec le tourisme.
Donc, pas de tourisme là-bas et j'achetais pas de pétrole.
Donc je continue, puisqu'effectivement, j'ai pas fini, puisque du coup j'allais parler sport Qatar, Coupe du Monde, c'est bientôt, c'est au mois de novembre, c'est dans la continuité. Donc vous avez entendu, plusieurs villes de France ont décidé de boycotter cet événement, ne diffusant pas les matchs sur des écrans géants à travers leur ville. Bon, on attend toujours un petit peu la position par chez nous. Ouais. Il se passe rien. Du côté d'Amnesty International, on a profité du match France-Danemark à Copenhague. Je vous fais un peu de géographie, pour regretter, je cite, le silence assourdissant de l'équipe de France, des joueurs et des Bleus, donc, face aux milliers de travailleurs migrants décédés sur le chantier qatari et aux milliers d'autres soumis au travail forcé, je cite le texte de...
En même temps, on en parle depuis plusieurs années, et d'un seul coup, là, il y a des gens qui bougeotent un petit peu, quelques villes comme la ville de Lyon, qui disent on ne mettra pas de fan zone, tout ça, mais c'est quand même super tard, les morts, on en parle depuis longtemps, ça n'intéressait quand même personne.
Du côté de la Fédération Française de Football, par la voix de Philippe Diallo, vice-président délégué, qui était présent au forum Think Football, évidemment. Donc c'était mardi, il s'est exprimé, il a donné la position de la Fédération Française de Football. Il a expliqué, en fait, je le cite, « Nous avons pris langue avec une dizaine de fédérations pour travailler sur un triptyque de propositions. » Alors, la première, créer un centre d'accueil pour travailleurs migrants qui seraient inscrits dans l'héritage de la Coupe du Monde qatarienne. De créer un fonds d'indemnisation pour tous ceux qui ont été victimes d'accidents du travail au cours des chantiers de la Coupe du Monde. Et de faire en sorte que tous les capitaines puissent arborer un brassard, signe d'inclusion. Oh, alors là, le coût du brassard.
Le coût de l'inclusion, c'est énorme.
Classe. Donc il paraît que c'est simplement certains capitaines qui pour l'instant ont accepté de porter ce brassard qui a déjà été montré à la presse. Alors cette histoire de fonds d'indemnisation, elle n'est pas nouvelle, c'est des ONG qui ont demandé à ce qu'il y ait effectivement une indemnisation de ces ouvriers. Par exemple, Amnesty International demande un montant minimum de 400 millions de dollars sur l'équivalent des dotations sportives promises aux 32 sélections qui vont se présenter à cette Coupe du Monde. Alors de la part de la Fédération Française de Football, on explique avoir soumis à la FIFA et au comité d'organisation du mondial au Qatar l'ensemble de ses propositions. Ça a dû bien les faire marrer, moi je vous le dis quand même. Alors, du coup, il dit encore, Philippe Diallo, je vous rappelle, vice-président de la Fédération Française de Football, nous tentons, je le cite, d'être pragmatique, d'être efficace. Notre choix, c'est d'accompagner les évolutions et pas de boycotter, de faire en sorte, sans arrogance par rapport aux pays organisateurs, que les évolutions qu'on commence à constater puissent se prolonger. Alors moi je trouve que quand on commence à parler d'arrogance en parlant pas de boycott et en se disant non mais il faut être gentil avec les autres, c'est qu'on est arrogant soi-même. Mais peut-être que je retourne juste le truc. Hein. Alors, ce qui paraît aussi, c'est que sur le camp de base des joueurs donc de l'équipe de France à Doha, eh ben, la Fédération française a demandé à ce qu'il y ait de bonnes conditions de travail et de rémunération. Pas chouette, ça. Alors, bon, on attend donc ce fonds d'indemnisation. C'est pas pour l'instant parce qu'il y a une fédération française et les ONG qui le demandent que ça va se faire, puisque du côté du Qatar, on se félicite de l'instauration d'un salaire minimum. Ce que j'aime beaucoup, c'est que c'est surtout le Qatar se félicite de l'assouplissement de la dépendance des travailleurs vis-à-vis de leur employeur. Hein, et puis, qu'il paraît qu'il y a des règles protectrices plus strictes. Voilà, et ben là vous pouvez sourire, ça va, pour les ouvriers, ben ils sont hyper contents de la mise en place de toutes ces grandes nouveautés au Qatar, c'est-à-dire qu'avant ils y allaient avec le fouet en même temps. Alors du côté de la ministre des Sports, hein, ici en France, je vous rappelle qu'elle s'appelle Amélie Oudéa-Castéra, elle a envoyé un courrier qui a été sorti par l'AFP à la Fédération Française de Football, qui demande à la Fédé de bien vouloir expliquer exactement ce qui est mis en place pour que les choses se passent bien pendant cette Coupe du Monde, et qu'est-ce que la Fédération française a l'intention de faire. Bon, ben voilà, ça c'est la réponse de la Fédération française. Elle a envoyé un courrier elle-même à la FIFA pour dire voilà nos propositions. Ça n'empêche pas la ministre de dire, avec son petit drapeau, soutenons l'équipe de France, hein, quand même, il ne faut pas décoder. Alors, ce qu'il faut aussi se souvenir, parce que c'est un truc qui a été voté en août dernier, c'était le 4 août à l'Assemblée nationale, c'est qu'il y a plus de 200 gendarmes et policiers qui vont être envoyés au Qatar durant la Coupe du Monde de football. Hein, c'est un accord de partenariat France-Qatar. Donc c'est un partenariat qui prévoit par exemple 21 agents spécialisés du GIGN, 170 spécialistes de la lutte anti-drone, des agents des mineurs, des équipes cynophiles, voilà, bon, hein, des experts aussi des hooligans, hein, parce qu'il paraît qu'il pourrait même y en avoir qui se déplacent quand même. Alors, d'après les informations qu'on a et qui ont été transmises par le Canard Enchaîné, par exemple, c'est que c'est que des hommes qui sont envoyés au Qatar, parce qu'il faut quand même pas déconner non plus. Par contre, la France a obtenu quelques trucs extrêmement importants. Alors d'abord, c'est le Qatar qui paraît va prendre en charge les frais de transport, d'alimentation et d'émergement pour nos flics. C'est sympa quand même. Et le surcoût de la rémunération, parce qu'apparemment, ils vont avoir des primes quand même, ceux et celles que ceux qui vont se déplacer. Alors, il paraît que nos forces de l'ordre à nous vont pouvoir garder leurs uniformes, avec les petits insignes, et puis qui vont aussi avoir leurs armes de service. Et alors, le truc que la France a obtenu, c'est que l'accord prévoit que donc, les policiers et les gendarmes français bénéficient des garanties relatives à un procès équitable, je cite, en cas d'infraction au Qatar, que le pays, le Qatar, s'est engagé à ce que la peine de mort, ainsi que les peines contraires aux engagements résultant des conventions internationales auxquelles la France est partie prenante, ne soient en aucun cas appliquées. Donc nos flics, ils ne vont pas pouvoir être exécutés au Qatar, même s'ils font un truc pas bien, a priori. On va nous les rendre, si vous voulez. C'est l'idée. C'est pas nouveau, la France a déjà, l'État français a déjà envoyé des poulets dans d'autres rendez-vous sportifs internationaux. Mais ça fait pas vraiment plaisir de les voir aller au Qatar.
Alors j'ai parlé des grévistes qui sont considérés comme des terroristes, car c'est une vraie info. Et l'info date d'il y a presque deux jours. Mardi, c'était donc le 4 octobre, c'est quatre syndicalistes de la CGT et qui sont aussi des anciens grévistes de RTE. RTE, c'est le réseau de transport de l'électricité, qui est une filiale d'EDF qui s'occupe de gérer les tuyaux pour transporter l'électricité, enfin les fils si vous voulez. Et ils ont été interpellés à leur domicile et placés en garde à vue au siège de la DGSI. Donc ils sont considérés, ils sont arrêtés parce qu'ils sont méchants. En fait, ils sont qualifiés de cybercriminels en bande organisée. Ça, c'est ce qu'a dit le policier qui les a arrêtés. Il a dit ça devant leur famille. Ils sont aussi accusés de dégradation majeure sur le réseau électrique ayant entraîné des coupures de courant. Alors ça fait suite en fait à une plainte déposée par RTE suite à un mouvement de grève qui a été assez long l'année dernière. Qui revendiquait juste des salaires. Il faut savoir que l'entreprise a eu des bénéfices qui ont augmenté en 2021 de 27% et les salariés ont rien. Donc ils demandaient simplement qu'il y ait une petite redistribution, ce qui est assez légitime, dirons-nous. Et c'est Francis Casanova, le délégué syndical central de la CGT à RTE, qui explique que accuser les grévistes de, je cite, entrave à un système de traitement de données, sabotage informatique, je n'ai pas tout dit, accès et maintien frauduleux dans un système de traitement automatisé de données, introduction, modification et suppression de données d'un tel système, ça fait beaucoup. Il dit, Francis Casanova, que c'est quand même tout faux, tout ça, qu'ils n'avaient rien dégradé et qu'il n'y a pas eu de coupure d'électricité. Donc, mais est-ce que ça mérite d'être arrêté et d'être mis à la DGSI ? Donc, ils sont considérés comme des terroristes, hein, c'est le principe. Ils ont 96 heures de garde à vue. Et puis, on va voir ce qui se passe au bout de ces 96 heures. C'est quand même très impressionnant de voir qu'une entreprise peut faire appel au service de l'État pour arrêter ces grévistes, ces anciens grévistes, puisque ça s'est passé au mois de juin de l'année dernière, entre autres au mois de juin de l'année dernière. Ça a duré 4 mois à peu près, le mouvement de grève. En fait, ce qu'ils ont fait, hein, ce qu'ils leur ont reproché, ils ont relocalisé 24 postes de transformation de l'électricité. En fait, quand ils disent relocaliser, ce qu'ils font, c'est qu'ils débranchent ces postes-là du réseau informatique, pas du réseau de distribution de l'électricité, il n'y a pas eu de coupure. Mais il y a comme ça 6,5% du réseau qui n'était plus gérable à distance en termes de contrôle, de surveillance, des consommations, hein, pas des données techniques ou des choses importantes sur la sécurité, par RTE. Et ça n'a pas plu à RTE que ces syndicalistes fassent ce genre d'action. Donc ils en ont chopé 4 et ils en ont fait arrêter 4 par la DGSI. Donc voilà, alors c'est une répression qui n'est pas un cas isolé, hein. Notamment Francis Casanova, toujours de la CGT, explique que RTE a une pratique comme ça de répression du mouvement syndical. Ils ont déjà envoyé des CRS plusieurs fois sur des sites pour déloger les grévistes, mais pour lui, faire intervenir les services antiterroristes de l'État, c'est franchir quand même un palier, et ça je pense qu'on peut être d'accord avec lui. Il y a un contexte social tendu, et l'idée de l'État, parce que c'est l'État qui est derrière, hein. RTE c'est une entreprise public, puisque EDF, c'est la partie publique, hein, qui est obligatoirement publique, sinon, parce que si c'est le libéralisme qui gère les tuyaux, ça va être comme quand ils gèrent les trucs où ils partagent le marché, c'est une catastrophe, hein, regardez la fibre, regardez les trucs comme ça. Donc, il faut que ça reste public, et c'est le but de RTE, c'est de rester public. De toute façon, EDF est en cours de renationalisation pour sauver le nucléaire. Donc l'idée, c'est d'arrêter ces contestations, et le gouvernement, à travers, parce que c'est le gouvernement qui est derrière la DGSI, hein, c'est faire pression sur tous les futurs grévistes en disant attention, maintenant quand vous faites grève, si vous faites des actions syndicales dans le cadre de votre grève, vous pouvez être poursuivi pour acte terroriste. Hein, c'est bien ça qui est laissé entendre par la Macronie, par le gouvernement qui sont derrière tout ça. Donc voilà, c'est plutôt inquiétant quand même, vous imaginez, vous faites grève sur vos lieux de travail et la direction du contre-espionnage, enfin du machin de la lutte antiterroriste vient vous arrêter. C'est pas beau, la vie ?
Alors, on va revenir sur Camaïeu, dont on a parlé déjà la semaine dernière extrêmement rapidement. Donc, je vous rappelle, hein, ce qui s'est passé. Hein, la Camaïeu, 2600 salariés sur le carreau, a été mis en liquidation par le tribunal de commerce de Lille le 28 septembre dernier. Le 1er octobre, toute l'activité s'est arrêtée, les magasins ont fermé, baissé le rideau et tout le monde s'est donc retrouvé dehors. Alors, on avait dit... c'est assez brutal pour ces 2600 salariés. Il y en a à peu près 500 de ces salariés qui sont concernés directement à Roubaix, là où il y a le siège social de Camaïeu. Et il y a des mardis un certain nombre de salariés, une centaine, qui se sont retrouvés sur le site avec une tentative de blocage. Mais le but n'était finalement pas tellement de bloquer ce lieu, mais plutôt de pouvoir se rassembler et de pouvoir peut-être aussi s'organiser et puis de faire un petit peu un coup d'éclat aussi à l'appel de la CGT. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que donc ces salariés se sont retrouvés et en particulier autour aussi de l'avocat de la CGT, Maître Fiodorilov, qui a proposé à ses salariés de s'organiser et d'entamer une procédure contre la direction. Il faut dire que là, pour l'instant, qu'est-ce qu'on sait ? Il pourrait y avoir des reclassements, mais en fait, tout ça, c'est que des peut-être. La direction n'a rien confirmé, puisqu'il y a un groupe derrière, donc les gens pourraient être classés par exemple à Gosport, à la Grande Réclée, qui sont des enseignes du groupe. Il faut se rappeler aussi qu'Amaïeu venait d'être acheté en 2020, c'est-à-dire 2 ans après, on a plus de 500 magasins qui ferment, alors qu'il n'y a pas de dette à Camaïeu. Mais par contre, il n'y a plus aucune trésorerie. Donc, la question que se pose la CGT et l'avocat pour la CGT Camaïeu, c'est de savoir, il est passé où le pognon ? Est-ce qu'il y a eu des manipulations d'argent entre les différentes structures de ce groupe ? Et est-ce que ça aurait échappé finalement à Camaïeu, puisque ce n'était pas une enseigne qui allait tellement mal, même si, évidemment, il y avait des problèmes de trésorerie, mais parce que le secteur du textile est en difficulté. C'est pas, il y a pas que Camailleux hein, qui a des soucis. Mais la question, elle est quand même de, où est l'argent? On veut des documents. Donc l'avocat a proposé de lancer une procédure pour obtenir les documents sur les opérations financières qui ont eu lieu au sein de Camailleux depuis 3 ans entre la société Camailleux et les autres sociétés du groupe, histoire de comprendre un petit peu le mécanisme de cet argent, le mécanisme financier, et de savoir s'il y a de l'argent qui a échappé à Camailleux et donc aux salariés de Camailleux. C'est ce que cet avocat a expliqué à François Hauts-de-France, si vous voulez aller regarder ce qu'il explique exactement, un peu plus, d'une manière un peu plus approfondie. En tout cas, l'idée hein, quand même aussi de cette procédure, c'est d'identifier les responsabilités et de répondre aux salariés qui s'interrogent vraiment hein, sur ce qui a pu se passer, parce que c'est aussi de partout et pas juste à Roubaix que les salariés se demandent comment est-ce qu'on en est arrivé là. Donc, il y a une question aussi de... C'est pas juste de la curiosité hein, malsaine, hein, c'est une envie de comprendre comment à un moment, tu te retrouves sans emploi du jour au lendemain, hein, quand même, c'est assez brutal. Encore une fois, il faut s'en souvenir. Donc, il y a toutes ces questions-là. Et puis, l'idée d'attaquer la procédure, c'est de dire qu'il y a toujours eu, de la part des différentes directions, hein, au niveau des différences du groupe, de dire, d'abord, il y a eu le Covid. Il y a eu la crise. Et puis c'est vrai que Camailleux a subi aussi, et le groupe ont subi une cyberattaque qui a coûté 40 millions d'euros. Et que donc ça expliquerait pourquoi d'un seul coup Camailleux va mal. Mais comme dit l'avocat et la CGT, ça explique pas pourquoi d'un seul coup en 2 ans, là où il y a une entreprise qui a pas de dette importante, on se retrouve avec d'un seul coup 250 millions d'euros de dettes qui ont été contractées en 2 ans. Et avec des pertes qui arrivent à 146 millions d'euros à fin juin 2022, d'où la liquidation. C'est-à-dire que d'un seul coup, tout s'est déchaîné, là où finalement ça n'allait pas si mal. Alors, encore une fois, faut se souvenir, les entreprises textiles, elles vont pas très très bien, mais c'était pas si pire que ça. Il y avait quand même 228 millions d'euros de chiffre d'affaires. C'est une enseigne qui était quand même pas non plus marquée tellement par des besoins de trésorerie extrêmement importants. Donc il y a ces procédures qui sont lancées avec aussi du coup le retour de marteau, puisque du côté des actionnaires on a porté plainte hier, hein, donc mardi, rassemblement d'une centaine de salariés au siège à Roubaix, et hier les actionnaires ont porté plainte pour diffamation contre l'avocat et la CGT. Puisque en fait l'avocat il a fait le tour, la CGT aussi, des médias, et qu'on estime du côté des actionnaires qu'en fait il a des propos totalement faux et que c'est une plainte qui est extrêmement importante, parce que là on est en train d'accuser extrêmement sérieusement des actionnaires qui n'y sont absolument pour rien, et que, je cite, les propos portent atteinte à l'honneur et à la considération du groupe. Donc on voit quand même des actionnaires qui agissent extrêmement vite pour tenter de faire taire quand même et de casser un mouvement qui tente de s'organiser partout en France. C'est pas facile, hein, parce que c'est 500 magasins qui sont quand même éclatés sur un territoire. C'est pas tant que ça, 2600 salariés non plus, surtout que vous en avez 500 quand même à Roubaix. Mais la CGT est montée au créneau assez rapidement et avec une volonté de ne laisser personne sur le carreau. Et on sent qu'en face, il y a une réaction extrêmement agressive. Et nous allons tenter de suivre cette affaire.
Alors je vais parler de Total, tu sais, la multinationale de l'énergie qui détruit la planète. Et après cette information, vous n'irez plus chez Total par hasard, pour reprendre un de leurs slogans. Si vous y allez encore, c'est que vous êtes d'accord avec les pratiques de cette multinationale. Alors c'est les Amis de la Terre et Survie qui publient aujourd'hui un rapport qui s'appelle EACOP, la voie du désastre. Alors EACOP, hein, c'est le nom d'un pipeline, un oléoduc, pour prendre le mot français, qui est construit en Afrique. Alors, il y a déjà eu pas mal d'infos hein, autour de EACOP, notamment sur son trajet en Ouganda, où ça a réagi, il y a eu des choses qui sont sorties dans la presse, hein, globalement. Mais là, ça va plus loin, puisque aujourd'hui, le trajet continue et il passe en Tanzanie. Et là, c'est pas du tout la même chose. En Tanzanie, les autorités mettent la pression pour empêcher tout le monde de parler, d'enquêter, de voir ce qui se passe. Il faut savoir que les 2/3 du tracé de cet immense oléoduc qui doit traverser le pays passe en Ouganda. En fait, ce qui se passe, c'est qu'il part de... il passe en Ouganda et en Tanzanie. Il part de l'Ouganda, il passe après en Tanzanie où il va jusqu'au port de Tanga. Et c'est là où ils vont pouvoir après exporter ce pétrole, puisque c'est du pétrole dont il est question. Alors, ce rapport-là, EACOP, la voie du désastre, donc par les amis de la Terre et Survie. Ça rajoute un petit peu tout ce que prend Total à travers la figure en ce moment. On parle de dérèglement climatique, on parle de plein de choses. Que fait Total ? Eh ben Total continue de financer énormément d'extraction de pétrole. Alors vous allez me dire, c'est son cœur de métier. Oui, mais peut-être qu'il faut continuer à attaquer Total pour sortir du tout pétrole et des catastrophes qu'on connaît maintenant. Alors, en Afrique de l'Est, suivant les pays, il y a des réactions. Donc on l'a dit, en Ouganda, il y a eu des réactions parce qu'il y a eu un bout de société civile. Par contre, en Tanzanie, c'est pas du tout ça. Hein, le régime est beaucoup plus autoritaire. Les autorités ont bloqué, ont interdit les journalistes de venir. Ils ont essayé de tout bloquer, les journalistes ou les gens d'Amis de la Terre ou de Survie. Ils sont quand même arrivés, malgré tout, à faire une enquête et à sortir ce rapport qui parle de l'impact de cet oléoduc. Donc l'impact, c'est avant tout, quelque part, le vol des terres. Parce que ça passe sur des terres qui sont utilisées par des gens, hein. C'est 62 000 personnes qui sont impactées, hein. On parle de familles entières qui vivent de ces terres et qui, à qui on a fait des trucs pas très cool, hein. On les a obligés à vendre à un prix ridicule, enfin il y a eu pas mal de choses comme ça, d'exactions commises, tout ça pour que Total puisse extraire son pétrole et l'emmener ailleurs dans le monde et le vendre, hein. Alors, l'enquête met aussi en avant l'impact sur l'environnement, et en particulier au niveau de la côte de l'océan Indien, où l'oléoduc va donc terminer son tracé et aboutir sur un port dans lequel les tankers pétroliers vont pouvoir récupérer ce pétrole. Il y a pas mal de cyclones, il y a pas mal de tempêtes, des risques de tsunami, il y a plein de choses. Et donc s'il arrive quelque chose, voilà, ça risque d'être une catastrophe. Bien évidemment, Total dit qu'ils ont tout prévu au cas où, mais on sait très bien qu'ils ont, et enfin, toutes les données qui ressortent montrent qu'en fait, ils n'ont rien prévu. S'il se passe quelque chose d'important en termes d'impact sur l'environnement, s'il y a un accident, ça sera une catastrophe. Vous allez me dire, c'est quasiment systématique. Quand on a du pétrole, quand il y a un accident sur des oléoducs, sur des raffineries, c'est catastrophique en termes d'impact environnemental. Voilà. Alors, il y a Juliette Renaud qui est responsable de campagne sur une commission qui s'appelle la régulation des multinationales, donc aux Amis de la Terre. Elle dit, plus encore que l'Ouganda, qui est également sous un régime autoritaire, la Tanzanie est l'exemple même de pays où les multinationales comme Total ne devraient pas s'implanter pour des projets d'une telle envergure, car ils vont irrémédiablement causer de nombreuses violations des droits humains. Voilà, et donc tout le rapport. Le rapport est disponible, vous pouvez le consulter. Voilà, ça détaille un petit peu tout ce que toute l'horreur absolue. Alors, faut savoir qu'il y a eu, ils font leur travail, hein, les Amis de la Terre et Survie. Le 15 septembre dernier, le Parlement européen a adopté une résolution d'urgence qui condamne le projet de Total. Et il y a une action en justice qui va arriver. Alors là, hier, c'était la publication du rapport. Là, on en parle aujourd'hui puisqu'on n'y a accès qu'aujourd'hui. Il y a le 10 octobre prochain un nouvel événement au sein du Parlement européen pour informer de ce que fait Total là-bas. Et il y a une audience au tribunal judiciaire de Paris le 12 octobre pour faire arrêter ce projet. Donc qui va détruire et la planète et qui détruit la vie de certaines personnes en Afrique, donc on a dit en Tanzanie, Ouganda. Voilà. Donc c'est intéressant de voir que finalement ça résiste encore face à une multinationale, aussi bien localement et donc en France, parce que Total, on rappelle, est une entreprise au départ française. C'est pour ça, entre autres, que Survie et les Amis de la Terre sortent les choses. Voilà. Bref, vous n'irez plus chez Total par hasard.
Je vais vous parler de Monsieur Elon Musk. C'est Dallas un peu, hein, cette affaire avec Twitter.
C'est un coup oui, un coup non.
Voilà. Donc on vous rappelle ce qui s'est passé, c'est qu'il y a quelques mois, le conseil d'administration se voit proposer par Elon Musk de racheter Twitter. Le conseil d'administration d'abord dit non, et puis finalement dit oui, hein, parce que bon, ben voilà, il n'y a pas trop le choix. Et puis finalement, Elon Musk, finalement, il dit non.
ça s'en va et ça revient.
Voilà. Donc du coup, là-dessus, le conseil d'administration, Twitter et tout ça, ils décident d'attaquer Elon Musk pour le forcer à acheter Twitter. Alors, on rappelle qu'il y a une valorisation de l'action à $50.20, ce qui faisait que ça faisait une valorisation quand même à 44 milliards hein, de dollars. Voilà, il y a toujours des chiffres assez hallucinants dans ce domaine. Donc, mi-juillet, hein, donc, le conseil d'administration attaque Elon Musk et donc l'emmène devant une juge pour le forcer à acheter Twitter. Et donc, c'est ce moment de justice que nous attendions tous et toutes, bien évidemment, et elle devait avoir lieu le 17 octobre, c'est-à-dire là, tout de suite. Et finalement, Elon Musk a décidé que bah, il va acheter Twitter. Alors, les vilaines langues disent qu'il avait forte chance de toute façon de perdre son procès. Donc, qu'il ait une obligation de revenir sur sa parole et de bien acheter Twitter. Donc, peut-être qu'il s'est dit, bon, autant y aller tout de suite et acheter Twitter. Et puis, il y a les annonces de Elon Musk depuis, en particulier sur Twitter, parce que autant y aller carrément et utiliser le jeu qu'il est en train d'acheter, c'est qu'il explique qu'il va, ça va lui permettre, l'achat de Twitter, d'être un accélérateur pour créer X, l'application de tout. Et là, vous vous dites, hein? Quoi ? Comment ça veut dire quoi ? Eh bien, ça veut dire qu'en fait, il va, grâce à Twitter, pouvoir créer un nouveau réseau social et commercial, plutôt basé sur ce qui se fait du côté chinois, sur WeChat, par exemple. Donc, une espèce de... d'avoir plutôt des méthodes à la Facebook, à la Meta, en transformant carrément Twitter, voire carrément en écrasant Twitter et en fermant Twitter pour créer son application X. Je vous rappelle, c'est le nom qu'avait PayPal avant qu'ils vendent PayPal. Ça vous parle encore ou pas ? Ouais, peut-être. C'était une ancienne société, hein, X.com. Donc, il reviendrait à des joujoux d'avant par des petits signes rigolos, j'imagine, pour lui. Ça fait pas marrer du côté de Twitter de savoir que si ça se trouve, ils vont se faire bouffer tout cru et qu'ils vont être supprimés, tout ça, parce que Twitter... Elon Musk a envie de faire joujou avec cette structure, hein, cette application qui dépasse hein, maintenant le simple fait d'être hein, une petite application. Voilà, en tout cas, pour l'instant, la juge a expliqué que tant que personne n'avait annulé la plainte, il y avait toujours un procès le 17 octobre. Donc, on attend la décision du conseil d'administration pour savoir ce qui va se passer. Tu voulais me parler de censure?
Ah oui, alors c'est une très mauvaise nouvelle. C'est la première application d'un truc qui s'appelle la directive européenne sur le secret des affaires. On en avait parlé à l'époque et ça va limiter le travail des journalistes. Et là, c'est tombé. Le site reflet.info vient d'être condamné par le juge des référés du tribunal de commerce de Nanterre à fermer sa gueule. C'est ça qui est dit. En fait, ce site reflet.info et derrière lui reflet.sh et puis je crois qu'il y a une troisième structure, ils ont des petits sites d'information. Ils sont pas mal acharnés sur Altice et son président Patrick Drahi, où ils ont sorti pas mal d'infos. Alors, il y a des infos qui ont été données sur Internet par des pirates qui avaient fait un ransomware. C'est un groupe qui s'appelle Hive pour récupérer de l'argent auprès d'Altice et ils avaient publié des infos. Et Reflet, du coup, avait analysé tout ça et avait sorti pas mal de choses sur Patrick Drahi et sur Altice, la maison mère. Je crois que c'est SFR, lui, hein, c'est ça. Entre autres. Et ben voilà. Et donc, c'est simple, au motif de la violation du secret des affaires, ce qu'a désormais décidé le tribunal donc de commerce de Nanterre, c'est d'interdire à partir d'aujourd'hui à reflet.info de publier des informations sur Altis et Drahi. Et là, on se dit... Alors, c'est pas précisé. Alors ça, c'est les rendus de la justice flous. On sait pas bien ce que c'est, quelles informations. En tout cas, ce qui est nouveau, c'est que... Alors, Drahi et Altice, ils avaient demandé que toutes les précédentes publications soient enlevées. La justice a dit non. Mais par contre, maintenant, reflet.info, vous avez plus le droit de publier sur Altice et Drahi. C'est énorme, quand même. Là, on rentre dans un nouveau mode de censure. C'est de la censure au futur, c'est que vous avez plus le droit de faire ça. Alors, bien évidemment, ils vont se pourvoir en appel hein, de cette décision, mais c'est un truc qui fait très très peur, hein, puisque c'est ce que tout le monde craignait, que la loi des affaires, du secret des affaires, devienne plus importante que la vérité et les enquêtes journalistiques. Et là, c'est la première condamnation comme ça en France, et c'est un gros recul hein, pour la liberté de la presse. Alors, ils ont été condamnés aussi à payer 1 500 euros de frais Alors c'est compliqué parce que c'est un tout petit truc, reflet.info et 1 500 € pour eux c'est beaucoup. Le but c'est aussi de les faire couler. Hein. La justice, c'est là, le tribunal de Nanterre, c'est le bras armé du capitalisme et du libéralisme. On vient soutenir une société capitaliste qui fait plein de trucs qui sont moches et on essaye de tuer un média, reflet.info, par l'argent et par la condamnation en lui interdisant de publier toute information. Et d'ailleurs, ce qui pose question, c'est que Le Monde avait aussi publié des infos tirées de ce ransomware Hive-là. Et Le Monde, ils n'ont pas été poursuivis, pas été condamnés pour l'instant. On se dit, ouais, en fait, Le Monde, c'est un peu une institution, on n'y touche pas, mais tous les autres petits qui essayent de faire des trucs, on les attaque. Donc, grosso modo, symboliquement, c'est l'ensemble de la presse là, qui en prend un coup. On le sentait venir avec cette horreur qu'était la loi sur le secret des affaires. Donc là, il y a un appel et on espère que ça va faire bouger un petit peu les choses et que l'appel n'ira pas dans le même sens. Mais un tribunal de commerce, c'est un truc qui est déjà libéral, déjà capitaliste et qui est déjà du côté des entreprises. Donc, c'est compliqué pour les journalistes de reflet.info ou d'autres choses, d'autres journaux.
Alors on va parler d'autre chose, maintenant on va parler d'une attaque mise en place par des hackers qui se sont présentés pour cette attaque sous le nom de Guacamaya. Alors ce sont des services militaires du Chili, de la Colombie, du Mexique, du Pérou, du Salvador qui ont été touchés par cette attaque de Guacamaya. Pour vous dire, c'est 10 teraoctets qui ont été volés. C'est beaucoup. Si vous n'avez pas d'idée dans votre cerveau de ce que ça fait, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup.
C'est 10 fois, beaucoup, c'est 10 disques durs de taille moyenne.
Voilà. Et on en met. Hein,
on surtout, en met beaucoup dans un teraoctet.
Surtout dès que vous avez que du document, ouais. Que du mail. Le Mexique a été le pays le plus touché avec 6 teraoctets. Hein, dans les données que j'ai pu lire, ça ferait 4 millions d'emails. Des vidéos, des documents. Ce qui est très important, c'est qu'il y a effectivement tout un tas d'échanges hein, qui ont été hackés par Guacamaya, mais aussi un certain nombre de documents qui présentent des opérations militaires et aussi des contrats avec des entreprises privées pour évidemment hein, de la fourniture d'armement. L'idée de Guacamaya, c'est... Ce groupe avait était déjà intervenu en mars dernier contre des entreprises minières, en particulier au Brésil, au Chili, en Colombie, au Guatemala. Là, il y avait une idée d'attaquer des groupes sur des revendications écolo. Là, le groupe a pris une autre voie et s'attaque aux forces répressives. C'est ce qui est donc amené dans le pourquoi hein, de cette attaque. Parce qu'en fait, l'attaque, si on est au courant, c'est parce qu'en fait, les documents ont été transmis aux journalistes. Et dès le 29 septembre, ça a été très très vite, hein, très rapidement, on a eu un journaliste, Carlo Loré de Mola, qui publie sur le site Latinus, qui a commencé à sortir des informations. Donc, des choses qui sortent, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de données, hein, et beaucoup de choses très confidentielles. Il y a des choses aussi à côté, du coup, qui sont aussi sorties, par exemple, du côté du Mexique, on a un président, André Manuel López Obrador qui avait expliqué il y a quelques temps qu'il avait été un peu malade. Dans les documents qui ont été récupérés, en fait, il est démontré qu'il est plus que malade, qu'il a eu une maladie qui fait qu'il peut avoir une crise cardiaque demain, hop là. Donc il a menti. Hein, il a le droit de cacher des maladies, mais là quand même il a menti assez ouvertement. Donc il a dû reconnaître qu'effectivement ces documents étaient exacts et qu'en plus de ça, reconnaître qu'il y avait bien eu un vol de données militaires assez importantes. Voilà, donc ce groupe agit hein, sur le continent américain et en particulier aussi contre les États-Unis d'Amérique et contre des entreprises qui pourraient aussi travailler avec les États-Unis d'Amérique ou contre les populations. Plus exactement. Ce qui est intéressant aussi, c'est que dans ces données, il semblerait qu'il y ait un certain nombre d'informations sur les opérations militaires contre les cartels de la drogue et qu'il y a un certain nombre de cartes d'attaques, d'opérations qui soient très bien documentées et que les journalistes aujourd'hui ont entre les mains. Alors à eux et à elles de en faire ou pas quelque chose, hein, bien évidemment, comme toujours quand les journalistes récupèrent des informations. Mais il y a aussi une attaque, vous savez, dans certains de ces pays où on a des gens qui disparaissent. C'est le cas au Mexique, et dans lequel l'armée est accusée de soit avoir, la police, d'avoir protégé des cartels, soit d'être à la manœuvre même pour avoir fait disparaître des groupes d'étudiants, des militants et des militantes. Et donc ces documents pourraient avoir des informations extrêmement importantes pour peut-être faire la lumière aussi sur ces informations, sur ces disparitions. Donc là, on a un acte de démocratie qui pourrait être utile quand même. Voilà.
Alors je vais juste dire un petit mot sur...
Je terminerai juste par un petit...
Salah Hamouri en grève de la faim. Depuis le 7 mars, Salah Hamouri, qui est avocat franco-palestinien, qui s'occupe de défense des droits humains sur la partie Cisjordanie occupée par Israël. Donc il est en détention administrative. La prochaine audience, détention administrative, hein, c'est un truc hérité du mandat britannique où t'es arrêté et puis t'as droit à rien. Hein. T'es hors, vraiment hors justice démocratique. Hein. Israël l'a jamais supprimé parce que ça arrange bien. Sa prochaine audience, c'est le 4 décembre. Il est en grève de la faim depuis 12 jours. Donc ça commence à se sentir. Ils l'ont du coup mis à l'isolement parce qu'il n'était pas tout seul. Ils étaient 29 à être solidaires et à être en grève de la faim. 29 prisonniers palestiniens. Il est franco-palestinien. Et en fait, il est né à Jérusalem. Un des deux parents était français. Donc, parce que palestinien, c'est pas une nationalité, hein, puisque malheureusement, la Palestine n'existe pas. Donc, il est avant tout français, en termes de droit international. En représailles, hein, ils l'ont foutu à l'isolement, dans une cellule de 4 mètres carrés, sans fenêtre, sans livre, sans pouvoir écrire, sans rien du tout. Comment faire mourir quelqu'un qui se bat pour les droits humains, c'est, à mon avis, c'est plutôt ça. Et on attend un peu des réactions. Alors, Emmanuel Macron, c'était soi-disant enquis, je cite, de la situation de Salah Hamouri en août dernier. En fait, c'était dans un communiqué de l'Élysée, parce que Macron aurait téléphoné au Premier ministre de l'époque, à Yair Lapide, c'était le 22 août. Mais en fait, au final, ni le gouvernement ni Macron ne font quoi que ce soit pour aider Salah Hamouri. Alors qu'en fait, il est relativement facile pour le gouvernement français de discuter avec le gouvernement israélien, de faire pression sur le gouvernement israélien. Hein. C'est beaucoup plus facile que pour les deux prisonniers français qui sont dans les geôles iraniennes, qu'on accuse de tout, on ne sait pas ce qui est vrai ou faux, mais là c'est compliqué de les sortir. Là pour Salah Hamouri, quand on veut, on peut. Eh bien je crois qu'ils ne veulent pas.
Je voudrais terminer donc par ce qui est en train de se passer à l'Assemblée nationale, hein, puisque ça, mardi, il y a eu un chouette article qui a été adopté en première lecture. Tout ça est dans le cadre de la réforme de l'assurance chômage. Ça va être sympa, je vous le dis déjà. Donc les députés ont adopté en première lecture un chouette petit article de ce projet de loi qui pourrait permettre de moduler l'assurance chômage selon l'emploi. Il y a beaucoup de travail, là, du style, par exemple, dans la restauration, vous voyez, il faut y aller, il paraît. Hein, parce qu'il suffit de traverser la rue, puis du coup, il y a un resto qui t'embauche. Et bien, du coup, tu aurais moins de chômage parce qu'il y a du travail. Par contre, évidemment, demain, on a plus besoin de toi, tu auras plus de chômage. C'est pour atteindre le plein emploi.
C'est le libéralisme,
à
5%. Quoi,
ouais. Voilà. Donc, c'est évidemment.
L'offre et la demande, du coup. L'offre et la demande sur un système où ce sont les salariés qui cotisent. C'est pas l'État qui met de l'argent, c'est les salariés qui cotisent.
Eh ben l'État, enfin en tout cas le gouvernement va décider donc pour nous que à un moment on restera pas dans notre canapé à rien faire, il paraît, mais on ira travailler parce que c'est ça qui fait que
on va mieux le matin. Chômeur là, c'est ça. Hein.
Voilà, c'est ça. Alors ce qui est bien, c'est que il se passe plein de trucs dans cette assemblée, hein, du côté du Rassemblement National, on dit que c'est pas bien, c'est autoritaire comme méthode. Moi, j'aimerais bien savoir quelle méthode ils emploieraient, le Rassemblement National. Peut-être qu'un jour, on va le savoir, hein, quand ils seront au pouvoir. Du côté de l'extrême gauche, on tente de réagir. Le problème, c'est que tous ces débats-là, ils sont extrêmement importants, mais ils sont complètement cachés par les tweets incessants des unes et des autres sur les réseaux sociaux et commerciaux qui, évidemment, cachent la réalité du débat politique et en particulier de ce qui est en train de se passer là à l'Assemblée nationale. Et c'est bien dommage parce qu'à force de sortir la petite phrase qui fait qu'on ne parle plus que de barbecue, de mange tes morts et d'autres choses, eh ben on en arrive à oublier qu'il y a quand même des gens qui pourraient faire des trucs pas trop mal à l'Assemblée nationale. Bon, nous, on n'a aucune amitié, hein, pour la France insoumise, les Verts, ces députés et cette démocratie parlementaire, mais quand même, on trouve vraiment, vraiment dommage que la seule chose qu'on arrive à retenir aujourd'hui, c'est les petites phrases que ne cessent de répandre eux-mêmes et elles-mêmes ces politiques et ces députés.
Ouais, on a l'impression de l'extrême gauche,
en fait. De la droite.
Ils veulent pas faire avancer les idées, mais ils sont en campagne électorale permanente.
Ben, le problème, c'est qu'à un moment, c'est ça qui prend le dessus. La petite phrase a toujours pris le dessus, hein, dans la politique. Mais là, c'est vrai que les réseaux sociaux ne font qu'amplifier ce phénomène et qu'aujourd'hui, tout est noyé. Alors, quand Mme Rousseau dit qu'il y a dès qu'elle fait un tweet, qu'il y a la moitié de la France qui est en PLS, je suis d'accord avec elle. Elle énerve les gens. Le truc, c'est qu'à un moment, peut-être aussi qu'il faut redescendre de son côté. Et apprendre à quitter un petit peu Twitter, à retourner aussi faire un boulot de politique. Parce que finalement, on ne retient pas grand-chose de ce débat. Alors que là, il est en train de se passer des trucs beaucoup plus importants et personne ne les retient, ces choses.
Ils ont changé aussi le fait de l'abandon de poste qui est équivalent à une démission. Enfin, il y a plein de recul. Hein, donc,
Il y a beaucoup de choses qui entrent. Alors, tout ça et beaucoup de choses sont en première lecture pour l'instant.
Oui. Ça ne changera pas grand-chose.
Ça ne changera pas grand-chose
surtout
de toute façon.
Surtout que le Sénat est d'accord sur beaucoup de mesures. Hein, le Sénat est à droite. Donc, ça fait. Il y a plein de mesures qu'ils voulaient depuis longtemps.
Surtout
donc, en fait, on s'est mal parti.
À droite, on accuse Macron de ne pas aller assez loin. Donc ils vont quand même aller voter parce qu'ils peuvent pas ne pas voter quand même pour ce genre de choses, mais ils l'accusent de pas aller assez loin. Ça reste quand même une réalité, c'est que de toute façon on est mal barré, il faut bien se le dire.
Voilà. C'est la fin du canon info. On va laisser la place à la petite cuillère qui est de retour pour l'émission anticarcérale de Radio Canu. Tout à l'heure, j'ai parlé d'un rassemblement contre le lobby de l'armement, et c'est local, c'est contre le lobby de l'armement en Auvergne-Rhône-Alpes. C'est devant la CCI, la Chambre de commerce. Vous savez, c'est un joli
et de l'industrie.
C'est un joli bâtiment qui est rue de la République, vers Cordeliers. Donc, c'est au 21 rue de la République. Il y a un rassemblement samedi à 15h. Sur Rebellion, il y a tout le détail des entreprises de la région Rhône-Alpes-Auvergne qui travaillent pour la maman, qui fabriquent des trucs qui vont tuer d'autres gens.
Je veux dire place de la Bourse.
Oui, la place de la Bourse. Parce que c'est la Bourse, c'est le bâtiment de la Bourse.
Ça, si vous perdez, c'est que c'est vraiment, vous êtes nul. Hein.
C'est là où il y a le petit écriteau de l'anarchiste qui a tué un président de la République française. L'anarchiste
il y a
italien.
Très longtemps en plus.
Ouais. Je voulais aussi souhaiter bon courage aux Lyonnaises et aux Lyonnais et aux autres qui n'ont pas de métro, puisqu'il y a une panne générale d'informatique. Et en plus, ils ne peuvent même pas prendre de vélo, parce qu'ils sont en panne aussi à cause de la panne informatique. Les grosses galères, la marche à pied est de retour.
Paye ton abonnement de bus, 66,40€.
Bon voilà, on laisse la place à la petite cuillère de retour.
À la semaine prochaine. Ciao, ciao.
L'émission anticarcérale de Radio Canu.
Salut.